liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Fréquence 7.
Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste et plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyens@fréquence7.net. Tout en minuscules, singulier, tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Merci à celles et ceux qui nous ont fait part lors de nos rencontres de leur plaisir de voir l'émission redémarrer, ça nous fait chaud au cœur. Au menu du jour, comme il se doit, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, Edwige fera le point sur les luttes, actions, conférences passées et à venir sur notre territoire. En plat de résistance, nous discuterons du ploui. Le ploui.
Qu'est-ce que
c'est? Et nous terminerons le plus légèrement possible en partageant avec vous la recette du jour. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit!
Alors, pour les luttes, je pense que c'était intéressant de parler, évidemment, de la grève des enseignants et aussi des personnels de l'éducation nationale. Jeudi 1er février et mardi 6 février, les enseignants du premier et second degré se sont rassemblés à Privas pour alerter sur la situation catastrophique de l'école publique et leur ras-le-bol d'avoir des guignols qui cassent l'école. En effet, après l'excuse ridicule de la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui voulait justifier le fait d'avoir mis son enfant à l'école privée par rapport aux absences des professeurs, la crispation est montée lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait renoncé aux deux tiers de ses rémunérations pour sa passion pour le sport. Elle passait d'un salaire de 1 400 000 euros par an à seulement 500 000 euros par an, la pauvre. Les enseignants ne se sentent pas représentés par cette ministre de la caste des nantis. Une chose est sûre, depuis 2017, ce sont 8 381 postes qui ont été supprimés au niveau national. Les mesures annoncées de faire différents niveaux dans les classes n'ont pas convaincu. C'est aussi le cas de l'uniforme, jugé comme une mascarade pour détourner l'attention des vraies priorités, c'est-à-dire plus de moyens et plus d'effectifs.
Cette mobilisation du 1er février a été très importante et très suivie. Et juste signaler que mardi 6 décembre, il y a aussi eu une mobilisation à nouveau. Mobilisation du second degré uniquement sur la question des classes de niveau. Qui ne passe pas du tout dans le corps enseignant, mais qui ne passe pas non plus auprès des parents, puisque les parents aussi se sont mobilisés le 6 contre ces classes de niveau qu'ils estiment ségrégatoires. Ils préféraient qu'il y ait davantage de moyens, plus de profs mis en face de tous les élèves pour ça. Simplement une remarque aussi, nous enregistrons notre émission mardi. Et il est question que la ministre saute. Donc peut-être que quand vous nous écouterez, la ministre aura sauté.
Ce sera le bouchon de champagne qui va sauter, je pense.
On va sauter les bouchons de champagne.
Et alors, passons à la mobilisation des paysans. Aubenas a été le théâtre d'un des blocages que les paysans ont organisé un peu partout en France pendant une journée. D'autres ont préféré bloquer les plateformes logistiques comme l'a fait la Confédération paysanne de tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, en bloquant la plus grande plateforme européenne près de Lyon pendant plusieurs jours. Le gouvernement a joué la division, il a gagné. Et bien sûr, on peut se demander quel intérêt commun il peut bien y avoir entre un céréalier de la Bosse et un éleveur du plateau ardéchois. Au contraire, le premier ne peut que tuer le second. Il faut espérer que ceux qui ont de véritables intérêts communs, petits paysans et populations, agissent ensemble plutôt que des actions strictement corporatistes.
Il faut ajouter que la Confédération paysanne a aussi organisé au niveau de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes, une mobilisation particulière des apiculteurs qui a eu lieu à Lyon. Je crois qu'ils ont pris la place Bellecour, hein, ou un truc comme ça.
Ils ont posé des ruches sur la place Bellecour.
Et puis ils y ont resté la journée pour discuter avec la population et tout, parce que pour eux c'est grave l'annonce d'Attal de réautoriser des pesticides qui tuent les abeilles, ça c'est incontournable. Ça a doublé avec les marchés du libre-échange. Qui,
l'origine des miels qui n'est pas encore signalée correctement sur les étiquettes.
Voilà, donc ça justifiait une journée particulière des apiculteurs qui a eu lieu ce lundi à Lyon.
Alors ensuite, on va parler de la santé. Donc nous avons parlé de l'hôpital la dernière fois. Une fois de plus, on nous annonce la fermeture des urgences à Aubenas par manque de médecins. C'est inacceptable. De plus, une manifestation a eu lieu jeudi dernier pour protester contre la fermeture annoncée d'un service de médecine à l'hôpital de Joyeuse. L'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas tient son assemblée générale aujourd'hui, 8 février, à 18h30 à la maison de quartier de Pont d'Aubenas. L'occasion de discuter de tout cela. Alors, au sujet de la loi immigration de Darmanin, le Conseil constitutionnel en a retoqué une partie, laissant ainsi valable la version initiale du gouvernement, qui, rappelons-le, a été rejetée par l'Assemblée nationale. Une manifestation a donc eu lieu samedi dernier à Aubenas pour réclamer l'abrogation de cette loi que Macron s'est empressé de promulguer en vitesse. On rappelle aussi que, comme tous les samedis, il y a un rassemblement à l'Agora à Aubenas pour exiger un cessez-le-feu immédiat des bombardements qui ont lieu à Gaza. Il y aura aussi la projection d'un documentaire qui est à quelle date, Dominique, ce documentaire
au navire ? Vendredi 16 février à 20h au navire.
Au navire. Voilà, et donc ça raconte la vie dans Gaza sous la domination israélienne. La projection sera suivie d'un échange avec Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, intervenant dans le film. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme lutte ? Eh bien, la lutte de Saint-Pierre, bien sûr.
Le local.
Donc Saint-Pierre, donc ce soir 8 février, il y a déjà un rassemblement par rapport aux résultats qu'on va avoir de l'appel de la cour de Nîmes pour savoir si les travaux reprennent ou pas. Ensuite, il y a de prévu le 18 février à 14h un grand carnaval des animaux. Au programme, un défilé musical et Carmen Tran, une buvette et restauration assurée sur place. Et je voulais aussi vous parler d'une petite épidémie, un phénomène épidémique antogien, car il semblerait que depuis plusieurs jours, des personnes ont reçu des invitations pour venir à la gendarmerie de Tueil, sans qu'on sache trop bien pourquoi. On suppose que c'est en lien avec Saint-Pierre. En attendant, gardez vos nerfs, comme le chante si bien Eddie Mitchell, que Sylvain va nous mettre à l'écoute.
En cage d'otages, les quartiers bouclés, voitures de flics, camions de pompiers, l'alarme s'est mise à hurler. J'ai du côté le caissier. Garde tes nerfs, garde tes nerfs. Un consignateur bien entraîné. Un parleur m'ordonne d'arrêter. Rendez-vous, vous êtes cerné. Tout le monde peut être sauvé. Oh, garde tes nerfs, garde tes nerfs. Je flippe, je stresse. Je peux pas envoyer du SOS. Histoire de garder mes nerfs. Une voix féminine machine à raisonner. C'est toi, chérie, les flics t'ont amené pour tenter de me raisonner, pour calmer et parler. Oh, garde mes nerfs, ok, me rends, vous pouvez me noter. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Le coffre est resté fermé, le coffre n'a pas marché.
Le PLUI, PLUI, qu'est-ce que c'est, Kesako?
Ben après ce magnifique appel au calme d'Eddie Mitchell, je pense que ça nous a mis en condition pour écouter des choses très sérieuses et pas forcément simples. La dernière fois, on a abordé le sujet en annonçant que nous reviendrions. Aujourd'hui, nous aborderons la connaissance, la compréhension de ce qu'est un PLUI, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunal, et comment les choses se présentent localement. Les prochaines émissions, nous recevrons des citoyens concernés par ce plan, à un titre ou à un autre, et qui nous donneront des pistes de réflexion et d'action citoyenne. Depuis plusieurs décennies, en ce domaine essentiel qu'est l'urbanisme, comme dans d'autres, on constate un empilement, le millefeuille comme on dit, d'échelons de décision qui vont tous dans le même sens, éloigner les lieux de décision des citoyens. Ainsi ont été créés différents échelons politiques au-dessus des communes, comme les communautés de communes, les EPCI, les régions, etc., jusqu'à l'Europe, qui nous donne souvent l'impression d'être impuissants et nous amène à nous désintéresser de ces lieux de décision et donc également des élections qui les concernent. Tant que c'est à notre portée, il nous paraît essentiel de surveiller, contrôler, proposer ce qu'il est possible aux échelons de la commune et des communautés de communes, qu'on peut encore considérer comme étant à taille humaine. Et à moyen terme, œuvrer pour que ces échelons retrouvent le pouvoir de décision et d'action qu'ils ont eu dans le passé et qu'ils n'ont eu de cesse de déléguer à d'autres.
Alors, c'est quoi le PLUI, Dominique ?
Alors, la plupart d'entre vous doivent connaître les PLU, qui sont les plans locaux d'urbanisme. Vous en avez peut-être entendu parler, vous avez eu affaire à ces plans locaux. C'est ce qui, dans chaque commune, définit l'urbanisation sur le territoire communal, les règles de construction, là où c'est constructible ou pas, comment on a le droit de construire ou pas, etc. Si des terres sont réservées, par exemple, pour un but particulier, soit pour l'agriculture, soit pour le commerce, etc. Les PLU, ils sont consultables en mairie de la commune concernée, pour ce qui est de notre territoire albenacien, au pôle économie, habitat, urbanisme de la communauté de communes du bassin d'Aubenas, et sur le site du géoportail aussi de l'urbanisme. De tout temps, l'utilisation du foncier des terres a été un enjeu majeur. Pendant très très longtemps, les terres n'ont appartenu qu'à des seigneurs. Donc c'est un enjeu qui renvoie aussi à la République. Nous connaissons tous ces pratiques mafieuses qui veulent que certaines familles se font élire uniquement dans le but de pouvoir valoriser leurs biens à travers sa constructibilité, sa viabilisation, c'est-à-dire y mettre l'électricité, l'eau, enfin, etc., sa destination. Le PLUI, c'est la même chose, mais au niveau intercommunal. Ça a été mis en place par la loi qui s'appelle « Portant engagement national pour l'environnement » en 2010. Et cette loi, elle a prévu que la compétence d'urbanisme, elle soit portée par les communautés de communes et non plus seulement par les communes avec les PLU, mais plutôt par les communautés de communes avec les PLUI. Et depuis ce transfert de compétences, il n'est plus possible d'engager une nouvelle procédure de révision d'un PLU.
Mais j'ai aussi entendu parler du SCOT. Quel rapport avec le PLUI ?
Alors il faut ajouter le SCOT, ça fait partie encore du millefeuille. Ça veut dire schéma de cohérence territoriale et ça a été décidé par une loi en 2000. Et elle porte sur les mêmes sujets, mais à une échelle géographique plus importante. PLU et PLUI doivent être compatibles avec le cadre fixé par le SCOT. Et comme l'indique la loi, tous ces dispositifs doivent intégrer les règles définies en termes de protection de l'environnement. En Sud-Ardèche, il existe un SCOT, le SCOT de l'Ardèche méridionale, qui a été élaboré par les élus dans un premier temps dans le cadre du pays de l'Ardèche méridionale, avec notamment la contribution du Conseil local de développement, donc de citoyens, et puis ensuite dans un syndicat intercommunal, quand les élus locaux et le président de région notamment se sont débarrassés du pays, préférant la négociation de gré à gré de commune à région. Certains appellent ça du clientélisme. Le SCOT a été validé le 21 décembre 2022 par l'ensemble des élus du territoire et il couvre 150 communes qui sont réparties sur 8 communautés de communes. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Ça totalise presque 110 000 habitants sur une superficie de plus de 2500 km². Son élaboration a duré très très longtemps parce que personne ne s'est précipité, aucun élu ne s'est précipité pour que ça évite et que ça risque de contrecarrer les petites magouilles que chacun pouvait avoir, pour certains, hein, dans son coin. Alors le SCOT, il comprend 3 documents, et ça, c'est la même chose au niveau des PLUI et des PLU. Il y a toujours un diagnostic qui fait un état des lieux, un PADD, projet d'aménagement et de développement durable, et ensuite un document d'orientation et d'objectif qui est comment concrètement ça va se passer sur le terrain. L'enquête publique pour le SCOT, elle avait eu lieu en 2021. Donc, si vous avez voulu vous exprimer, vous avez pu le faire à ce moment-là. Maintenant, le SCOT, il est opérationnel. Alors, depuis le 7 mars 2019, on va parler vraiment maintenant du PLUI, le Conseil communautaire de la communauté de communes du bassin d'Aubenas a prescrit l'élaboration du PLUI sur tout le territoire des 28 communes de la communauté de communes. La concertation avec les habitants doit avoir lieu tout au long du processus d'élaboration. Donc c'est important que les habitants soient informés et exigent d'être informés. Pendant cette période d'élaboration, il y a des registres qui sont mis à disposition du public dans toutes les mairies de la communauté de communes, ainsi qu'au siège de la communauté de communes. Et on peut y déposer des observations ou écrire au maire ou au président de la communauté de communes pour faire part de ses remarques, ses observations, ses attentes. Il y a eu une première étape consacrée à la réalisation du diagnostic. Et maintenant, on est rentré dans la deuxième phase d'étude, qui est la définition générale du projet du territoire en la matière. Ce projet, qu'ils appellent PADD, présentera donc les orientations en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat, de consommation de l'espace, de développement économique, d'équipement, de protection des espaces naturels agricoles et forestiers, de préservation de l'environnement et des paysages. C'est énorme.
Ça fait vraiment un grand programme. Est-ce que tu peux nous donner un calendrier prévisionnel de tout ça ?
Alors, en termes de calendrier, il y a des choses qui sont prévues. Il y a la phase diagnostique, donc je vous ai dit qu'elle a eu lieu. Donc là, maintenant, c'est la phase de ce projet. Ensuite, il y a le calage réglementaire de ça, parce qu'il faut que ça colle avec toutes les lois européennes, nationales, enfin, etc. Et ensuite, il y a une consultation qui est organisée des personnes publiques associées, c'est-à-dire du département, de la région, de l'État, de la préfecture, de la DREAL, de la commune machin, etc. Mais aussi une enquête publique pour que la population s'exprime. Et ensuite seulement, il y aura l'approbation de ce PLUI. Au stade actuel, il n'y a rien de prévu en termes de réunion d'information. Par contre, on peut tout à fait aller sur le site de la communauté de communes pour télécharger les documents qui correspondent au diagnostic qui a été réalisé déjà. Et ça vous permettra d'en prendre connaissance pour ensuite pouvoir y travailler et comprendre un peu, voir un peu ce que vous envisagez de faire par rapport à ce truc. Ça touche, je vous l'ai dit, des domaines extrêmement importants de la vie, non seulement quotidienne de tous les habitants du territoire, mais aussi de la vie économique du territoire. Il est bien évident que, par exemple, dire « telle zone, on veut qu'elle reste agricole », ça sera extrêmement important si on veut un jour avoir des légumes produits localement, par exemple. Si on continue à bétonner, c'est évident qu'on n'aura jamais de production locale suffisante pour et qu'on continuera à bouffer des tomates du Sahara.
Donc c'est très important de s'en soucier, quoi. Il ne faut pas... Voilà, même si ça paraît un peu compliqué, c'est très important pour nous, pour notre avenir.
Et puis surtout, ça continue à faire partie des choses sur lesquelles on peut avoir un petit pouvoir, les uns et les autres. Et je crois qu'on en est tellement dépossédés en ce moment. Et ça fait lien avec la mobilisation des paysans. Il y a un rapport direct avec la question des paysans sur qu'est-ce qu'on fait du territoire.
Alors Dominique, je vais être obligée de te couper parce que l'heure tourne et on va se faire un petit dessert. Avant, on va écouter une petite musique du trio Joubran. Alors, en soutien au peuple palestinien, colonisé, génocidé et dont on détruit la culture, on a choisi encore une recette palestinienne et dont on retrouve des variantes dans tout le Moyen-Orient. Donc il s'agit du salab. C'est une boisson que l'on boit dans les pays du Levant. Alors, pour en préparer, il vous faut donc pour deux personnes, deux verres de lait, une cuillère à soupe de maïzena, deux cuillères à soupe de sucre ou un peu moins ou même du miel hein, si vous voulez, de la cannelle en poudre, de la noix de coco râpée, des pistaches hachées ou en poudre. Et donc vous délayez un petit peu la maïzena avec le lait progressivement. Ensuite vous mettez à chauffer la maïzena et le lait à feu très doux pendant 10 minutes. Et moi je l'ai essayé, donc j'ai fait infuser dedans la cannelle, mais aussi de la cardamome. Et ensuite, au bout de 10 minutes, donc sans l'ébullition, vous mettez la fleur. J'ai oublié de vous dire que oui, il faut une cuillère d'eau de rose ou de fleur d'oranger. Donc vous mettez par exemple la fleur d'oranger, vous couvrez. Et en fait, vous allez ensuite les mettre dans les tasses et mettre la noix de coco et les pistaches hachées. Et vous pourrez déguster ça au coin du feu. Vous allez voir, c'est délicieux. Et maintenant, ça va être l'heure de se dire au revoir. Je vous rappelle notre mail, donc parole de citoyen tout attaché au singulier, fréquence7.net, @fréquence7.net. Vous pouvez nous écrire. Et on va se dire au revoir, si j'ai rien oublié, Dominique.
Non, je crois que c'est bon. Dans 15 jours.
Ah, dans 15 jours, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir et merci à Sylvain. Merci.
Liberté, égalité, révolution. Révolution et République, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.